carrière légendaire que s'est créé le premier comédie club de Belgique. C'est dans leur boutique que Verlaine s'est procuré le pistolet avec lequel il blessa Rimbaud. Les Galeries Royales Saint-Hubert fêtent leur 75e anniversaire et à cette occasion des festivités, bien sûr, une exposition, mais aussi un livre. Galerie Royale, star des galeries, galerie des stars aux éditions Venture. Il est signé de Paul Grosjean qui est notre invité. Bonjour.
Bonjour Charlotte.
Vous êtes journaliste de formation, aujourd'hui chroniqueur historique et dans cet ouvrage, vous nous racontez l'histoire de la plus belle galerie du monde, je vous cite, mais aussi de cette mode du passage qui se développe au 19e siècle et puis vous dressez la liste impressionnante des personnalités qui ont marqué les galeries royales, de Victor Hugo à Annie Cordy, vous évoquez aussi ces salles de spectacle, ces commerces emblématiques, on va en parler, mais d'abord, on remonte un petit peu dans le temps. La construction de ces galeries, il y a donc un peu plus de 175 ans, a été assez rapide, vous l'écrivez, mais par contre, ça a été très long pour que le projet voit le jour. Alors, qui est à l'origine du projet et par quelle péripétie est-ce qu'il est passé?
Alors, le génial concepteur, c'est Jean-Pierre Cleusenard, l'architecte, qui était assisté du banquier Jean-André Demotte, qui est en fait le papa d'Émile Demotte, qui a été bourgmestre de Bruxelles, mais c'est évidemment Cleusenard qui a inventé ces galeries. Dès 1837, il avait un plan en tête avec la galerie de la Reine, la galerie du Roi, pas encore la galerie des Princes d'ailleurs à l'époque, et il est allé le présenter au conseil communal de la ville de Bruxelles, et je vous fais court une longue histoire, mais il a fallu pas mal de temps avant d'arriver, si je puis dire, au chantier, qui a commencé en 1846, et il est vrai que le chantier a été très rapide. Par contre, la période préparatoire était assez longue, et notamment à cause d'une phase assez pénible, il faut le dire, soyons honnêtes, historiquement, d'expropriation. C'est-à-dire que...
Parce qu'il a fallu creuser, en fait.
Absolument. Enfin, peut-être pas creuser, mais en tout cas raser. Et donc, toutes les maisons qui étaient autour de la rue Saint-Hubert, qui est à l'origine des Galeries Royales Saint-Hubert, ont dû être détruites. Et la légende raconte que le barbier Pamel, apprenant qu'il était exproprié, se serait tranché la gorge avec sa lame de rasoir.
Aïe. Les galeries Saint-Hubert, elles ne sont pas royales au début. Quand est-ce qu'elles le sont devenues et pourquoi?
C'est une bonne question. En fait, elles sont devenues officiellement royales qu'en 1969. Donc, c'est plus de 100 ans après sa naissance. Sauf que dès le départ, c'était Galerie de la Reine, Galerie du Roi et puis Galerie des Princes. Donc, évidemment, en plus inaugurée par Léopold Ier et ses trois enfants, donc le futur Léopold II. Donc, elles étaient royales dès le départ, mais elles n'avaient pas le titre officiel de Galerie Royale Saint-Hubert. D'ailleurs, au tout départ, ça s'appelait le Passage Saint-Hubert, puis c'est devenu les Galeries Saint-Hubert, puis les Galeries Royales Saint-Hubert.
Et d'ailleurs, c'est un lieu privé, en fait. Enfin, c'est un peu entre les deux. Hein. Comme partout en Belgique, c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui, justement, c'est un très bel exemple. C'est peut-être, même sans doute, le premier partenariat public-privé entre la ville de Bruxelles et la Société des Galeries Saint-Hubert. Donc, le bâtiment appartient à une société privée, tout le bâtiment. Donc il y a un seul propriétaire et des locataires. Donc tous les commerçants, par exemple, que vous voyez, sont tous des locataires. Par contre, il y a un passage public, évidemment, à travers le bâtiment privé, qui est une rue, qui peut être assimilée à une rue. Et donc on ne fait pas ce qu'on veut dans une rue. Et ça, c'est la ville de Bruxelles qui gère l'espace public. Et en plus du fait que maintenant, évidemment, il y a la région bruxelloise qui a classé le monument et qui a participé et qui participe toujours d'ailleurs à la rénovation de ces galeries. Donc c'est vraiment du partenariat public-privé.
Paul Grosjean, vous écrivez que les plus anciennes traces de passage de ce type se trouvent en Iran, 9000 ans avant notre ère, ce sont évidemment les bazars, hein. Mais l'Europe les adopte plutôt au 19e siècle, en tout cas il y a une mode à ce moment-là européenne, et vous expliquez que la Belgique fait figure de modèle. Alors qu'est-ce qui plaît dans les passages belges?
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les passages sont nés à Paris, qui étaient plus petits, mais qui ont eu beaucoup de succès dès le départ. C'était un peu la nouvelle bourgeoisie qui voulait montrer un peu son opulence, entre guillemets. Et puis, il y a eu Londres. Mais Bruxelles a marqué un tournant dans l'histoire de ces passages, c'est-à-dire qu'on est passé de cette notion de passage à la notion de galerie, c'est-à-dire plus monumentale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un raccourci qui traverse un immeuble, mais carrément d'une rue couverte par des verrières, entre guillemets. Et donc, les Galeries Royales Saint-Hubert, en 1840, à l'époque, étaient les plus grandes du monde. Ensuite, évidemment, il y a eu Milan, 31 ans après. Il y a eu aussi à Naples. À Naples, il y a une très très belle galerie, etc., etc. Mais pour l'époque, c'était révolutionnaire. Et certains disent qu'elles sont les plus belles parce parce que c'est le bon format entre le monumentalisme italien qui est peut-être un peu trop grand et les petits passages parisiens, le modèle bruxellois et belge est peut-être le bon format.
Alors, dès son ouverture, le 1er juillet 1847, la galerie, et elle continue aujourd'hui, hein, essaye de maintenir un équilibre entre les enseignes commerciales et les lieux culturels, et c'est un succès rapide. Est-ce que c'est comme ça, d'ailleurs, que vous expliquez ce succès, c'est-à-dire un mélange entre du commerce et de la culture ?
Absolument. Ça, c'est nouveau, le génie de Cleuzenard, qui, dès le départ, a intégré commerce et culture. En fait, il disait qu'il fallait du divertissement pour attirer le chaland, pour alimenter les commerces. Et donc, dès le départ, il y avait le théâtre des galeries. En 1847, à l'inauguration, d'ailleurs, le théâtre des galeries a même été inauguré avant les galeries elles-mêmes. Et ça a toujours été un lieu à la fois commercial et culturel, ce qui n'est pas le cas nécessairement de tous les autres passages historiques. Et ça, c'est aussi une grande spécificité de ces galeries royales Saint-Hubert, c'est ce mix entre le commerce et la culture. On pourrait dire, si on se laissait un peu aller, que dans ces galeries, le commerce est un art.
En tout cas, vous le racontez bien dans votre livre, Paul Grosjean. Et alors, d'après vous, il y a beaucoup de choses importantes qui sont nées ou qui seraient nées dans ce passage, les pralines chez Neos, mais aussi l'humour belge. Alors, il faut quand même que vous nous expliquiez.
Ah, ça, c'est merveilleux. C'est Jean-Baptiste Barognan qui m'a révélé le cercle des agathopèdes, qui était un peu le Kings of Comedy Club avant la lettre, si je puis dire. Et donc, c'était un peu tous les farfelus, les Noël Godin, les Benoît Poulvourde, les Philippe Geluck, les François Damiens de l'époque, qui se réunissaient dans la galerie de la Reine, et ils faisaient tout le temps des blagues, etc. Mmh. Ils écrivaient beaucoup également, et donc ça s'appelait, donc il y avait aussi à côté ce qu'on appelait le cercle artistique et littéraire, c'était beaucoup plus sérieux, ça c'était Victor Hugo qui venait, Charles Baudelaire, etc., etc. Et tandis que les autres étaient plutôt des guélurons, ils étaient très populaires ou très impopulaires, parce qu'ils faisaient tout le temps des blagues, et ça énervait beaucoup de gens. Vous pouvez imaginer que s'il y avait 100 Noël Godin dans Bruxelles à l'époque, ça pouvait énerver beaucoup de gens aussi.
Alors, le lieu devient important culturellement. Vous venez de citer Victor Hugo, et alors vous écrivez de façon un peu ironique, hein, que la meilleure campagne de publicité, on la doit à Napoléon III. Expliquez-nous.
Coup d'État de Louis-Napoléon en 1851, qui avait été élu en tant que premier président de la République française en 1848, et puis il prend tous les pouvoirs. Et l'ennemi juré de Louis-Napoléon était Victor Hugo. Et donc Victor Hugo, mais d'autres Français évidemment, ont dû s'exiler. On appelait ça les proscrits. Et donc Victor Hugo, lui, a choisi de s'exiler à Bruxelles, qu'il connaissait déjà évidemment. Lui s'est installé sur la Grand Place. Et il a installé sa maîtresse Juliette Drouet, Galerie des Princes. Et donc tous les jours, il venait évidemment voir Juliette. Il y a d'ailleurs un magazine d'origine française qui s'appelle Juliette et Victor, qui fait référence justement à Juliette Drouet et Victor Hugo. Et donc Victor Hugo, on ne se rend pas compte, c'était une rockstar à l'époque. Bon, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais c'était même plus que Johnny Hallyday. D'ailleurs, quand il est décédé en 1885, à Paris, il y avait 2 millions de personnes dans la rue, plus que Johnny. Et donc, il a attiré dans sa foulée Alexandre Dumas, Charles Baudelaire, et puis il y a eu Arthur Rimbaud, Verlaine, etc., etc. Et le 19e siècle est évidemment le siècle de la littérature, et surtout de la littérature française. Et donc, ça a donné un impact, ça a donné un coup de boost incroyable à ces galeries.
Vous disiez que Victor Hugo avait installé sa maîtresse dans les galeries, ça veut dire qu'il y a des logements aussi dans les galeries? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui habitent?
Absolument, il y a une cinquantaine de logements, donc des appartements, et d'ailleurs c'est le premier immeuble à appartements de Belgique. Et donc effectivement, au-dessus des rayons commerciaux, comme on dit, au-dessus des commerces, des boutiques, vous avez des appartements, aussi des bureaux. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, dans ces galeries, Skynet est né en 1995, c'est quand même amusant, à l'époque c'était dans une chambre de bonne. Ça a pris une autre dimension par après. Et donc, effectivement, il y a des tas de gens qui habitent dans ces galeries, souvent des artistes, souvent des créateurs. On ne vient pas dans ces galeries nécessairement pour le confort. Ce n'est pas un grand immeuble, un appartement, mais on vient pour l'histoire, pour la culture, pour le patrimoine.
Dans cette galerie, il y a un autre lieu mythique, c'était le Blue Note, c'était donc un club. Et alors, ça me permet aussi de faire une petite parenthèse pour dire que c'est Marc Danval, en fait, qui signe la préface du livre que vous lui dédiez, hein, d'ailleurs. Alors, pourquoi ce lieu a été mythique et qu'est-ce qui s'est passé là?
Il y a eu des Blue Note à travers le monde, il y en a eu à Paris, à Milan, etc. Et à Bruxelles, il y en avait déjà eu un d'ailleurs auparavant, mais dans les années 60-70, effectivement, Benoît Kersin a lancé le Blue Note, qui était plus un club de modern jazz, et tous les plus grands artistes mondiaux sont passés dans les galeries Royal Saint-Hubert au Blue Note, Gillespie, Chet Baker, Stéphane Grappelli et Philippe Catherine, que je voudrais citer, qui a d'ailleurs créé un morceau qui s'appelle Galerie Galerie des Princes.
Alors, ce Blue Note, c'est devenu la librairie, hein, bien sûr, Tropisme. Et dans cette préface, vous dites aussi que Marc Danval, c'était un peu l'âme de ces galeries. Pourquoi, pour vous, il était tellement lié aux Galeries Royales et pourquoi vous lui avez demandé de participer à ce livre?
D'abord, parce qu'il faut le dire, c'est un ami. Et tout ce que Marc adorait se trouve dans cette galerie. Donc il y a à la fois évidemment la culture, le théâtre, la musique, le jazz, la littérature. Marc était un grand amateur de littérature. Et puis tout ce qui touche à la gastronomie, au commerce, il était gourmand également, Marc. Et donc il avait été comédien, il a joué au théâtre des galeries, il fréquentait le Blue Note évidemment, mais par exemple il a été l'attaché de presse de la Taverne du Passage, qui est quand même une institution gastronomique bruxelloise. Et donc il a connu une époque assez extraordinaire.
Beaucoup de rencontres, évidemment, qui ont été faites par Marc Danval, mais pas que. Vous me disiez que c'est là que Brel avait rencontré...
Barbara,
oui. Enfin, c'est... Alors, ça me permet aussi de parler des photos qu'il y a dans ce livre, parce qu'elles sont magnifiques. Vous avez peut-être un mot à dire,
oui,
sur
le... Oui, parce que ça, c'est vraiment... Il n'y a pas que l'aspect texte, évidemment, que je défends ici, mais il y a l'aspect iconographique, et ça, c'est Arnaud Everars, qui est le photographe des Galeries Royales Saint-Hubert, qui vit ses galeries tous les jours, parce qu'en plus de son métier de photographe, il a une boutique dans la galerie, qui est la Manufacture Belge de Dentelle, qui est d'ailleurs bicentenaire, qui existait déjà avant les galeries, et donc il vient tous les jours, et comme la lumière change tout le temps à cause de la verrière dans ces galeries, il se passe toujours des choses dans ces galeries, puis il y a toujours des détails à repérer, à découvrir et à révéler. Bref, il était le partenaire idéal, et il a aussi réinventé ces galeries.
Eh ben, on vous remercie beaucoup pour ce livre qui est passionnant, Paul Grosjean, Galerie Royale Saint-Hubert, Star des Galeries, Galerie des Stars. Un livre imposant aussi, hein, y a beaucoup, beaucoup de photos. Et donc, il est sorti il y a quelques jours. Et puis, il y a aussi une exposition qui a lieu en ce moment, hein, dans les Galeries Royales à l'occasion de ses 175 ans. On y accède par le cinéma des galeries et elle est ouverte 7 jours sur 7 de 14h à 20h. Elle est gratuite aussi.
Absolument, exactement, 7 jours sur 7, de 14h à 20h, en dessous du cinéma des galeries, dans les catacombes, dans les coulisses, dans les caves de ces Galeries Royales Saint-Hubert.
Merci Paul Grosjean.
Les Galeries Royales Saint-Hubert. Chaque année, 6 millions de personnes s'y pressent, des millions de visiteurs et encore plus de photos. À chaque instant, la lumière dans les galeries est changeante. Soleil ou nuage, vous ne verrez jamais deux fois les mêmes ombres se profiler sur les murs. Que vous soyez dans la galerie de la Reine, côté Grand Place, ou dans la galerie du Roi, de l'autre côté de la rue des Bouchers. 175 ans après sa construction, la prouesse technique que constitue la verrière continue à interpeller. Dans son bureau, au premier étage des galeries, Laure d'Outremont répond du tac au tac à toutes les questions sur les chiffres de la verrière. Longueur totale de la verrière?
173 mètres.
Nombre total de carreaux?
16 500.
Superficie de la verrière?
2 200 mètres.
Hauteur de la verrière?
19 mètres.
Il semblerait que si les galeries s'appellent Saint-Hubert, c'est parce que dans la ruelle qui était démolie pour leur faire place, se trouvait un estaminet qui portait l'enseigne de « À Saint-Hubert ». Construites en à peine 15 mois, les galeries ont tout de suite été adoptées par les Bruxellois, pour une raison bien simple.
Les galeries ont très vite été baptisées le parapluie de Bruxelles. Dès qu'il pleuvait, les gens venaient s'abriter dans les galeries pour échapper à la pluie et à la boue des rues avoisinantes.
Pourtant, il arrive parfois qu'on reçoive quelques grosses gouttes dans les galeries. Pas de panique, c'est fait exprès. Pour nous expliquer le pourquoi du comment, Alexandre Grosjean nous emmène exceptionnellement là où normalement on ne peut pas aller.
Il pleut dans la galerie lorsqu'il y a une très forte pluie avec un vent latéral. Et donc, pour éviter la condensation, le verre est disposé en écailles de poisson et donc ça permet le passage de quelques gouttes quand il y a ce vent latéral.
Et toujours pour éviter la condensation, le lanterneau présente de grandes ouvertures. Années 90, la verrière a été rénovée. La plupart des arceaux avaient bien résisté à la rouille et ne présentaient aucun danger. Il n'en allait pas forcément de même pour les carreaux.
Le verre d'origine était un verre qui n'était pas du tout sécurisé et notamment en cas d'incendie, évidemment, cette verrière aurait pu devenir une espèce de bombe à fragmentation. Donc maintenant, il y a un verre tout à fait spécial qui est traité justement pour limiter les effets en cas d'incendie.
Au bout des galeries, on trouve ces échelles mobiles qui culminent donc 19 mètres au-dessus de la tête des passants. Régis, vous n'avez pas le vertige ?
Non, pas du tout.
Ça tombe plutôt bien ?
Ça tombe plutôt bien, oui.
Une fois par an, cette échelle sert à nettoyer un à un les 16 500 carreaux. Et le reste du temps ?
Elle sert à mettre les affiches publicitaires qu'on met dans les galeries à l'intérieur. Donc elle est suspendue au-dessus, ça prend jusqu'en bas les affiches.
Du point le plus haut au point le plus bas, sous les 90 mètres de la galerie de la Reine, court une cave qui accueille une exposition consacrée aux 175 ans du passage. L'expo est accessible jusqu'au 30 juin. Quant aux galeries, elles sont ouvertes toute l'année, 24 heures sur 24.